Vous écoutez On lit pour vous.
Démantèlement de campements de personnes en situation d'itinérance. Les autorités font fausse route. Un communiqué d'Élisabeth Dupuis paru le 12 juin 2025 sur le site de la Ligue des droits et libertés. La Ligue des droits et libertés, LDL, dénonce les démantèlements de campements de personnes en situation d'itinérance qui se multiplient depuis quelques jours et réitère sa demande d'un moratoire sur cette pratique. Les campements spontanés en zone urbaine sont la conséquence, bien visible, d'une crise sociale majeure que les divers paliers de gouvernement négligent de résorber par les mesures adéquates. Le droit au logement recule à grands pas au Québec. La crise du logement, due à des années d'affaiblissement des droits des locataires, à l'absence de contrôle des loyers et à des investissements nettement insuffisants dans les logements sociaux, place de plus en plus de personnes en situation d'itinérance. Récemment, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ont à nouveau démantelé des campements, mettant les gens dehors de dehors, sans qu'aucune solution soit proposée à ces personnes. Les personnes en situation d'itinérance subissent de nombreuses atteintes à leurs droits, tels que les droits au logement, à la sécurité, à la santé, à l'éducation, au travail et à la non-discrimination. Les démantèlements des campements ne font qu'aggraver ces violations, notamment en éloignant les personnes des ressources et services qu'elles fréquentent et de leur milieu. Pour la LDL, il est indéniable que les investissements massifs dans le logement social, dans de nouvelles places, par milliers, en hébergement d'urgence, et un financement adéquat et majoré des services et ressources, tant du réseau public que des organismes communautaires, doivent être prioritaires. Les gouvernements municipaux et provinciaux doivent également mettre en place des installations accessibles et adéquates pour que les personnes non logées puissent exercer leurs droits, accès à l'eau potable, services sanitaires, etc. Les travaux et recommandations du Bureau de la Défenseure fédérale du droit au logement devraient être un incontournable pour les décideurs-décideuses politiques à l'heure actuelle. La Défenseure exige depuis février 2024 la fin des expulsions forcées des campements et la mise en place de solutions de rechange élaborées à la suite d'un véritable dialogue avec les résidents-résidentes des campements. Elle souligne également les impacts importants de cette pratique sur les personnes en situation d'itinérance, notamment sur leur santé mentale et physique. On fait fausse route. Le projet de loi numéro 103 qui promet d'éloigner certaines ressources des personnes qui en ont besoin, l'interdiction de flânage dans le métro de Montréal et les démantèlements de campements qui accroissent la vulnérabilité des personnes itinérantes et leur marginalisation dans l'espace public sont des réponses inadéquates, déclare Laurence Guénette, porte-parole de la LDL. La tolérance zéro envers les campements, en l'absence de solutions de rechange offertes aux personnes concernées, est profondément contradictoire avec une approche de droits humains et porte atteinte à la dignité humaine. C'était « Démantèlement de campements de personnes en situation d'itinérance. Les autorités font fausse route ». Un communiqué d'Élisabeth Dupuis paru le 12 juin 2025 sur le site de la Ligue des droits et libertés.
Écrans et enfants, connaissez-vous bien les faits? Un texte commandité paru le 19 mai 2025 dans La Presse. Pour les parents, la tentation de donner un écran à son enfant est forte, que ce soit pour l'amuser ou le réconforter. Votre tout-petit réclame son émission favorite? Votre ado fait la tête si vous limitez ses heures sur son cellulaire? Avec l'omniprésence des écrans, ces scénarios sont aussi nombreux que difficiles à éviter. Néanmoins, la première étape pour mieux gérer les écrans auprès de vos jeunes, c'est de bien connaître les faits. Vrai ou faux? Regarder une courte émission au retour de la garderie ou de l'école peut aider votre enfant à se détendre. Faux. Après une journée à la garderie ou à l'école, l'enfant a accumulé beaucoup de stimuli dans son système nerveux. Il a besoin de calme et d'écoute pour les évacuer. Une émission de télévision ne lui permet pas de le faire. Au contraire, le petit continue alors de recevoir des stimulations. Son système nerveux se faisant bombarder par les images et les sons de la télévision. Cela risque plutôt d'augmenter son irritabilité. Vrai ou faux? Il est préférable de ne pas avoir votre cellulaire sur la table ou encore la télé ouverte durant les repas. Vrai! Le fait de laisser le téléviseur allumé durant les repas nuit au développement du langage chez les enfants, car cela réduit les occasions d'interaction et de conversation avec les membres de leur famille. De même, un cellulaire posé sur la table risque de monopoliser l'attention du parent, qui sera alors moins disponible pour discuter avec son petit. Quel est le temps d'écran maximal recommandé chaque jour pour les jeunes de 2 à 5 ans? 1 heure. Pour un enfant de cet âge, le temps d'écran ne devrait pas dépasser 1 heure par jour, en prévoyant une pause après 30 minutes pour éviter des problèmes de vision 3. Si cette recommandation est difficile à appliquer pour vous, tentez de mettre l'accent sur des activités essentielles pour votre petit. Bouger, jouer dehors et faire des jeux impliquant l'imagination, entre autres. Il restera alors moins de temps dans la journée à consacrer aux écrans. Vrai ou faux? Les écrans ont le même effet, peu importe la pièce où ils sont utilisés dans la maison. Faux! Les écrans peuvent avoir un effet encore plus pernicieux quand ils sont employés dans la chambre à coucher. C'est pourquoi les pédiatres déconseillent leur présence dans cette pièce précise. Leur lumière bleue perturbe la mélatonine, essentielle à l'endormissement, et les écrans risquent ainsi de nuire au sommeil. Ceux-ci sont aussi liés à un plus grand risque de sédentarité et donc d'obésité lorsqu'ils sont permis dans la chambre. Vrai ou faux? C'est le désir d'obtenir des mentions « j'aime » qui rend les médias sociaux si addictifs pour les adolescents. Faux. Les ados, aujourd'hui, publient peu sur les réseaux sociaux. C'est plutôt la fonction de défilement infini de ces applications, laquelle permet de faire défiler du contenu sans interruption pendant des heures, qui conserve leur attention. Plusieurs adolescents sont d'ailleurs conscients de leur dépendance, mais ont du mal à s'en sevrer par eux-mêmes. La meilleure façon de les aider en ce sens, c'est de leur proposer des activités alternatives intéressantes et de les accompagner dans la diminution de leur temps d'écran. Vrai ou faux? Un enfant qui fait une crise ne devrait pas recevoir un écran pour se calmer. Vrai! Les jeunes ont besoin de vivre pleinement leurs émotions pour apprendre à les réguler. Dans le cas où un enfant aurait systématiquement recours à un écran chaque fois qu'il éprouve une forte émotion, il y a un risque que l'écran en question devienne un mécanisme d'évitement. Ce réflexe peut perturber sa maturation affective, alors que le jeune aurait plutôt besoin de la présence rassurante d'un parent pour l'aider à traverser ces moments de crise. Vrai ou faux? Une approche qui prône l'abstinence totale des écrans est idéale. Faux. Préconiser l'absence totale, sur ce sujet comme sur bien d'autres, n'est jamais gagnant et risque même de provoquer l'effet inverse. Accompagnez votre jeune dans l'utilisation des écrans. et le guider dans cet environnement complexe est préférable. Il faut toutefois noter que l'Institut national de santé publique du Québec recommande d'éviter les écrans à 100% chez les enfants de 0 à 2 ans précisément. C'était « Écrans et enfants, connaissez-vous bien les faits? » Un texte commandité paru le 19 mai 2025 dans La Presse.
Une autre crise au Nord dans l'indifférence. Un texte de Marie-André Chouinard paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir. La résurgence des cas de tuberculose frappe à nouveau le Nunavik dans le cocon confortable, pour les autorités, de l'indifférence. Bien que les raisons pour lesquelles cette maladie infectieuse refait périodiquement surface dans les villages du Grand Nord soient archi-connues, l'indolence caractérise encore les réactions du gouvernement du Québec qui demande à analyser la situation avant de pouvoir agir. Le cri du cœur lancé récemment par les maires du Nunavik reprend des plaintes souvent formulées par les communautés du Nunavik. Là-bas, où l'insécurité alimentaire et le surpeuplement des logements font rage, la tuberculose est résistante et se propage de manière plus rapide que dans les communautés du Sud. En date du 7 juin dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait répertorié 56 cas de tuberculose dans 6 des 14 villages du Nunavik. En 2024, la santé publique avait recensé 95 cas. Le taux de prévalence de la tuberculose chez les Inuits du Nunavik est de 100 à 300 fois plus élevé que celui du reste du Québec, selon la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. Les maires ont raison de taper du pied. Depuis 10 ans, des éclosions inquiètent les communautés du Grand Nord. La tuberculose active est très contagieuse et se transmet par voie aérienne, les micro-gouttelettes expulsées par la toux ou des éternuements ayant la propriété de rester dans l'air pendant des heures. Alors que la crise des logements là-bas mène à un surpeuplement maintes fois dénoncé, les consignes d'isolement lorsque la maladie est détectée sont difficiles à respecter. Dans ce contexte connu, la demande des maires de déclarer la crise actuelle de tuberculose comme une urgence de santé publique est tout à fait compréhensible. Mais la réaction du ministère de la Santé? Inexplicable et inacceptable. À notre journaliste Jessica Nadeau, la porte-parole du ministère répond que leurs équipes se sont mobilisées dès réception de la lettre, mais ajoute que le ministère doit prendre le temps de bien analyser la situation pour trouver les stratégies les plus porteuses. Disant que la situation est décriée, le problème identifié, les causes bien nommées, et le ministère doit prendre le temps. Cette rebuffade n'est pas acceptable. Le contexte ne pourrait pas être plus urgent. Récemment, le village de Pouvirnitouk, au Nunavik, a subi un bris d'aqueduc qui l'a privé d'eau potable pendant plus de 2 mois, forçant la fermeture de l'hôpital et des écoles. Là encore, la mairesse a tenté l'offensive par le cri du cœur. Comme il doit être usant de prêcher dans le désert. Nombre d'instances ont dénoncé à répétition les réalités distinctes des communautés du Grand Nord qui donnent naissance à des crises sociales et de santé publique. La mort de 10 nourrissons du syndrome de mort subite a ainsi été liée par la coroner Geneviève Thériault au surpeuplement dans les logements, dans un rapport percutant publié en 2022. C'est sans compter les conclusions de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, commission vient, dont plusieurs chapitres portaient sur les services de santé. La commission rappelle le contexte de méfiance qui explique, aujourd'hui encore, les hésitations des communautés du Grand Nord à se faire dépister et traiter pour la tuberculose en raison des traumatismes encore criants du passé. En effet, au cours des années 1940 à 1960, le tiers de la population du Grand Nord fut infectée par la tuberculose. Faute d'établissements capables de traiter l'infection sur place, les malades furent envoyés dans des sanatoriums du Sud pour de longues périodes, en moyenne 2 ans et demi, plusieurs familles demeurant sans la moindre nouvelle de leurs enfants, de leurs proches, partis se faire soigner. Plusieurs sont décédés sans que la moindre communication fût acheminée à la famille. Ce stigma, conclut la commission Vient, pourrait expliquer en partie la résistance de certains à envisager même une forme de dépistage, aujourd'hui encore. S'ajoute à cela la difficulté de communiquer avec les habitants pour les convaincre de passer un test de dépistage ou encore d'être traités. En accord avec les communautés inuites, le gouvernement fédéral s'est engagé à réduire de moitié le taux de tuberculose d'ici 2025 et de l'éradiquer complètement avant 2030. Cet objectif, soutenu par un plan d'action de 27,5 millions de dollars, n'est pas atteint. La crise du logement a atteint des sommets historiques au Québec et au Canada et préoccupe les différents gouvernements qui, invariablement, promettent de trouver des manières de l'endiguer. Dans le Nord, ce problème est d'autant plus criant que le marché privé est quasi inexistant et que la construction de nouvelles habitations est complexe en raison des manières limitées d'expédier des matériaux aussi loin. Avec la prévention et les ressources médicales, l'ajout de nouveaux logements pourrait contribuer de manière importante à la lutte contre la tuberculose. Il faudrait, pour cela, sortir du cocon de l'indifférence. C'était une autre crise au Nord dans l'indifférence. Un texte de Marie-Andrée Chouinard, paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir.
Dimitri Roussopoulos, 7 décennies de colère douce. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 24 mai 2025 dans Le Devoir. L'indignation, parlons-en à Dimitri Roussopoulos. Le quasi-nonagénaire, personnage majeur de l'histoire du militantisme montréalais, accueille Le Devoir chez lui, une maison en pierre grise du quartier Milton Park, près du Mont-Royal. Le vieil homme vit avec 3 colocataires dans cette demeure bourrée d'œuvres, d'artefacts et de livres. En cette fin d'avant-midi, la radio joue du classique. Une subtile odeur d'encens ou de vieux bouquins règne dans le logement. Natif de Montréal, Dimitri Roussopoulos, 88 ans, est engagé socialement depuis plus de 7 décennies. Son implication ratisse large. Anti-militarisme, écologisme, mouvement coopératif, démocratie municipale. Celui qui se décrit comme un libertaire demeure actif, notamment auprès des jeunes, et s'évertue à transmettre sa résistance contre la barbarie et son espoir de créer un monde meilleur. Chaque matin, entre mon réveil et 10h30, je suis dans un état de colère. Peut-être parce que j'écoute les nouvelles à la radio. Mais il ne faut pas supprimer la colère. Il faut trouver une façon créative de l'utiliser pour améliorer les choses, explique-t-il doucement. Opération Saint-Jean-Baptiste. En 1959, le jeune homme étudie l'économie et la politique à Londres quand le premier ministre canadien de l'époque, John Diefenbaker, annonce la construction de 2 bases militaires, l'une à La Macasa, au Québec, l'autre à North Bay, en Ontario, équipées de missiles nucléaires. M. Roussopoulos rentre au pays pour le temps des fêtes. « J'ai convoqué une réunion avec mes amis proches, ici à Montréal, et j'ai dit « Il faut faire quelque chose dès maintenant », raconte-t-il. Les étudiants lancent une pétition, récoltent 1000 signatures et, le jour de Noël, prennent la route d'Ottawa à bord d'une 100aine de voitures pour livrer la pétition chez le gouverneur général. C'était la première manif contre le nucléaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, précise-t-il. L'installation des ogives nucléaires ne pourra être stoppée, mais l'événement marque la naissance d'un nouveau mouvement pacifiste au Canada qui allait bientôt avoir des sections à Amari-Ouskoué-Admaré. À son retour définitif de Londres, ses amis le convainquent de renoncer à entreprendre un doctorat à l'Université de Chicago, où enseignait l'économiste Milton Friedman, fondateur du néolibéralisme, pour plutôt s'impliquer chez lui. Ses amis et lui savent qu'historiquement un esprit antimilitariste imprègne le Québec et ils veulent en profiter. Le 24 juin 1964, ils organisent l'Opération Saint-Jean-Baptiste. Une centaine de jeunes entreprennent de bloquer la route de la base nucléaire de la Macasa. Un colonel francophone retraité et sympathisant, qui avait là un chalet, propose aux militants d'en user pour préparer leur coup. Le jour venu, ils s'étendent de tout leur long sur le chemin. La police militaire a refusé de nous arrêter. Les agents ont plutôt déposé nos corps sur le côté de la route, se rappelle M. Roussopoulos en riant. Toute sa vie, il sera un partisan de l'action directe non violente. Nouvelle Gauche et Milton Park. Durant l'entretien, M. Roussopoulos nous invite à grimper à l'étage. Des œuvres et des photos de sa compagne décédée, Lucia Kowalouk, ornent les murs de l'escalier en bois. Voici le lit où Noam Chomsky a dormi, désigne-t-il. Le célèbre linguiste et militant politique est l'un des auteurs publiés par les éditions Black Rose, fondées en 1969 par M. Roussopoulos. Dans les années 1960, l'intellectuel québécois compte parmi les figures majeures de la Nouvelle Gauche, un mouvement qui sollicite une action sociale radicale s'appuyant sur les initiatives communautaires, mais en rejetant le hiérarchisme de la vieille gauche, c'est-à-dire le marxisme-léninisme et la social-démocratie. Francophones et anglophones s'y retrouvaient joyeusement, raconte M. Roussopoulos. L'indignation, dans son parcours militant, apparaît clairement dans la saga Milton Park, où il a joué l'un des premiers rôles. En 1968, une entreprise, Concordia Estates Limited, annonce un projet immobilier majeur avec des gratte-ciels et des logements luxueux dans ce quartier modeste près de l'Université McGill et du Mont-Royal. « On a tout de suite fondé un comité », raconte M. Roussopoulos. « Le groupe cogne à 800 portes. Vos maisons sont menacées », disent-ils. La population s'insurge. Une partie des bâtiments patrimoniaux sera rasée en 1972, mais les militants arrivent à trouver des alliés à la Société canadienne d'hypothèques et de logement, SCHL, qui rachète les immeubles restants en 1979. Ceux-ci sont rénovés et transformés en coopératives d'habitation. La propriété privée était abolie, se réjouit M. Roussopoulos. En 1987 naît officiellement la communauté Milton Park, le plus grand ensemble de coopératives d'habitation au Canada. Elle compte maintenant 645 logements et héberge environ 1500 personnes. Non seulement le modèle foncier de ces coops empêche la spéculation, il garantit aussi un logement à loyer modeste à ses habitants. Écologie politique, environnementalisme. Au fil des années 1980, l'intellectuel s'intéresse de plus en plus à la question environnementale. En 1992, il cofonde les éditions Éco-Société. Deux ans plus tard, il publie L'écologie politique. Au-delà de l'environnementalisme, qui fut réédité en 2017, nous devons remplacer le capitalisme et l'État-nation par une nouvelle société qui valorise l'humanité et la nature plutôt que le matérialisme et ses produits, y écrit-il. Dans ce livre, M. Roussopoulos fait la distinction entre l'environnementalisme qui se contente de solutions ponctuelles et l'écologie politique, qui implique une réorganisation radicale du système. Il faut transformer la colère et la frustration de la rue en une expression plus permanente du pouvoir populaire, écrit-il. L'indignation, une forme de colère déclenchée par l'injustice, serait donc l'un des moteurs de l'action écologiste. Pour M. Roussopoulos, la feuille de route de l'écologie politique passe par un mouvement citoyen qui travaille du bas vers le haut, quartier par quartier, avec l'ambition de prendre la ville. Au milieu des années 1990, il fonde le Centre d'écologie urbaine de Montréal, aux côtés de Lucia Kowalouk. Il y fréquentera l'actuel candidat à la mairie de Montréal, Luc Rabouin, qui en fut le directeur de 2006 à 2012. Le militant pilote par ailleurs un chantier de la Ville de Montréal sur la citoyenneté urbaine, qui débouchera, en 2005, sur l'adoption de la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Saluée par l'UNESCO, cette charte permet aux citoyens d'influencer les politiques de leur municipalité entre les élections au moyen de pétitions. Grâce à ce droit d'initiative, des consultations en matière de piétonnisation et de gaspillage alimentaire ont été déclenchées. Souvenir de Bertrand Russell. L'indignation d'aujourd'hui est-elle moins forte, moins efficace, plus frivole que celle d'autrefois? Non, répond le sage qui espère. L'indignation contient des ingrédients, dont la colère devant l'injustice, qui abonde encore de nos jours. Les jeunes comprennent très bien le grand danger que représentent les crises environnementales et le système qui les attise, souligne-t-il. C'est le même sentiment qu'on avait, nous, au début des années 1960, vis-à-vis du nucléaire. Pour lui, le printemps érable de 2012 offre un exemple patent de la manière dont les jeunes Québécois peuvent se mobiliser contre une injustice sociale et en faveur d'une démocratie horizontale. Jusqu'où l'indignation devrait-elle mener? Bien calé dans son fauteuil, M. Roussopoulos veut convaincre qu'être arrêté pour une bonne cause, ce n'est pas la fin du monde. Cela lui est arrivé à quelques reprises dans sa vie. Et à cet égard, l'âge ne pose aucune limite. Pour preuve, le militant se remémore avoir participé, aux côtés de milliers d'autres jeunes, à une manifestation anti-nucléaire à Londres en 1961, lors de laquelle le philosophe et mathématicien Bertrand Russell, prix Nobel de littérature, avait été arrêté à l'âge de 89 ans. « On marchait contre la bombe nucléaire », raconte-t-il. On était dans un état de colère et de peur, mais, au bout du compte, on était très inspiré par ce monsieur, ce grand philosophe, qui a été arrêté et mis en prison pendant un jour et demi. Parions que Dimitri Roussopoulos n'a pas fini, lui non plus, d'inspirer les autres. C'était Dimitri Roussopoulos, « Sept décennies de colère douce », un texte d'Alexis Riopel paru le 24 mai 2025 dans Le Devoir.